Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses de cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des Chroniques de Jacques Sapir. L'émission de cette semaine porte sur les marchés des matières premières et s'intitule « À quand la fin de l'instabilité ?» sur les marchés des matières premières. L'économiste Philippe Chalmin soulignait déjà en 2011 dans une interview pour la revue Alternative Économique que le monde des matières premières n'a jamais été aussi instable. À vrai dire, il est encore plus instable aujourd'hui. En effet, les cours de toutes les matières premières ont enregistré un rebond suspect depuis le début de l'année et de nombreux analystes craignent désormais une rechute. En même temps, nous avons l'épuisement des ressources, la spéculation financière, le changement climatique. Bref, les causes de cette volatilité sont nombreuses. Mais il semble par-dessus tout qu'un grand nombre de ces actifs aient perdu leur rôle de valeur refuge, surtout en ce qui concerne le pétrole, dont la baisse dramatique des cours nous a déjà préoccupés dans une précédente émission. La spéculation sur ces marchés est telle qu'une initiative populaire a failli aboutir en Suisse pour encadrer strictement ce type de pratique financière sur les marchés des matières premières. Nous prendrons le temps, en première partie de cette édition, d'étudier la possibilité d'une nouvelle dégringolade des matières premières, aura-t-elle lieu ou pas, et nous commencerons par une chronique en attendant qu'arrive en studio mon invité du jour. Attention au démarrage imminent de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France. Nous avons vu, dans la première partie de cette émission, qu'il y a un véritable problème de stabilité des prix des matières premières. Alors, une explication qui est très largement répandue parmi les spécialistes, c'est de dire « Ah, cette chute des matières premières, c'est la faute à la Chine ». Sauf que, si on regarde bien les chiffres, on voit que le ralentissement de la demande n'a pas signifié, en réalité, un arrêt total de cette demande. Et que, en réalité, si effectivement la Chine va réduire sa demande pour un certain type de matières premières, en particulier le charbon, elle va augmenter très fortement sa demande pour un autre type de matières premières, le pétrole et le gaz. Donc, fondamentalement, ce n'est pas la faute à la Chine ou ce n'est pas prioritairement la faute à la Chine. Alors, à ce moment-là, il y a une deuxième explication. Ah ! Cette crise des matières premières, c'est la faute aux banquiers. Oui, ces vilains banquiers, ces banquiers qui utilisent les matières premières comme, en fait, une sorte de sauvegarde, qui spéculent sur les matières premières. Alors, disons-le, c'est très clair que des banques d'investissement, Goldman Sachs en particulier, ont été et sont toujours très largement présentes sur le domaine des matières premières. Des banques qui sont même moins marquées que des banques d'investissement, mais aussi parce qu'elles ont des moyens financiers qui sont largement plus importants, comme les grandes banques européennes, les grandes banques ex de dépôt européennes qui sont devenues désormais des banques universelles. Elles continuent à investir et elles peuvent acheter, que ce soit directement ou indirectement, des titres qui sont liés aux matières premières. Ce qui veut dire que, bien sûr, il est clair que les banques ont bien largement investi les marchés des matières premières. Mais, d'un autre côté, on voit que toute une série de banques sont en train de se dégager, en tous les cas directement, de ces marchés de matières premières, et qu'elles sont en train de revenir à des opérations peut-être plus stables et plus sûres. Et oui, quand il y a de telles fluctuations sur les cours, on se brûle les ailes, on se brûle les doigts, et personne n'aime ça, les banquiers moins que les autres. Mais est-ce à dire que désormais, il n'y a plus du tout d'acteurs financiers sur la question de matières premières? Eh bien, il faut savoir que les banques interviennent parfois indirectement. Comment? Des fonds de placement, des fonds d'investissement peuvent prendre des positions extrêmement risquées sur des marchés de matières premières, avec des effets de levier, autrement dit, le rapport entre leurs capitaux propres et les capitaux que ces fonds ont empruntés, des effets de levier qui sont considérables, et en réalité, c'est essentiellement à travers ces fonds d'investissement et ces fonds de placement que se joue la dynamique de la financiarisation des marchés de matières premières. Alors, il faut bien se poser la question, à qui empruntent ces fonds? Eh bien, ces fonds, ils empruntent aux banques. Ce qui permet aux banques de dire « Ah non, nous, nous n'intervenons plus, ou nous avons réduit notre exposition au risque des matières premières », mais en réalité, très souvent, les banques sont largement impliquées dans le financement des fonds. Et là, on voit, et en particulier dans les marchés des biens au futur, on voit que les fonds d'investissement jouent un rôle extrêmement important dans la question des matières premières. Ce qui explique très largement la remontée brutale qu'il y a eu au mois de février, fin février et début mars, qui a pris d'ailleurs toute une série d'opérateurs par surprise. Mais là, on est très clairement en présence d'un phénomène de financiarisation. Ce qui m'amène au dernier point. En fait, le véritable problème dans les marchés des matières premières, c'est la déréglementation profonde de ces marchés. C'est le fait que n'importe quel opérateur puisse désormais non seulement acheter des matières premières, mais acheter aussi ce qu'on appelle des futurs, c'est-à-dire des promesses de vente ou des promesses d'achat sur des matières premières. Ce qui crée les conditions, justement, de cette financiarisation extrêmement importante. Et aujourd'hui, on constate que le fameux rapport offre-demande, vous savez, cette fameuse loi du marché dont certains économistes se rincent la bouche, eh bien, ce rapport offre-demande n'existe plus, en tous les cas, d'un point de vue physique. Ou plus exactement, que les mouvements de prix sont aujourd'hui largement déconnectés de ce rapport entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, alors que le rapport entre l'offre et la demande se resserre, eh bien, on voit que les prix ne remontent pas au niveau où on pourrait estimer qu'il serait normal qu'ils remontent. Ce qui montre bien que, en réalité, la dimension financiarisation des marchés de matières premières est bien la dimension première.
Moi, je m'appelle Léon Volet. Je suis étudiant à Lausanne, à l'Université de Lausanne, en Suisse. Et moi, ça fait 5 ans que je participe aux actions de ce collectif contre la spéculation sur les matières premières qui s'est formé en Suisse en 2011 avec pour but de mettre en place de la contre-information et de créer une mobilisation citoyenne autour et contre le forum organisé par le Financial Times. Le forum qui est organisé par le Financial Times, un hôtel à Lausanne, qui réunit sociétés de négoce, entreprises extractives, banques, investisseurs, cabinets de certification et autres. Depuis, c'est la 5e année consécutive qu'ils se réunissent à Lausanne. Puis dans ce cadre-là, en fait, je suis allé représenter le collectif contre les matières premières au Brésil l'année passée, lors de la rencontre internationale des peuples victimes de Vale. Vale, c'est une entreprise qui a été créée, fondée en 1942 au Brésil, qui était d'abord une compagnie donc nationale brésilienne, qui a été privatisée au tournant des années 90. La première chose qui est dénoncée par les mouvements de résistance au Brésil, surtout dans le sud du Brésil, dans l'état du Minas Gerais, où en fait, en novembre dernier, il y a un barrage qui appartient à une compagnie qui s'appelle Samarco, qui est une filiale de Vale et de l'anglo-australienne BHP Billiton, un barrage qui retenait les déchets de mine de fer qui s'est rompu. Et puis leur analyse de la situation, c'est de dire que ce type de catastrophe environnementale et sociale a tendance à se produire plus fréquemment dans les périodes de récession et dans les périodes de chute de prix des matières premières. Et l'analyse qu'ils font, c'est que justement, dans ces périodes de crise pour les entreprises extractives, pour répondre à la baisse du prix, il y a une augmentation d'extractivisme, c'est-à-dire une tendance à la hausse de production, au moins au moindre coût, qui produit toute une série d'impacts qui font des pressions sur, d'abord sur les cabinets qui délivrent les licences environnementales, les licences de construction, sur les cabinets d'infrastructures, de surveillance des infrastructures. Aussi, une pression très très forte sur les travailleurs, avec une hausse du chômage et une hausse des licenciements. Je parle du Brésil, et c'est encore pire pour d'autres pays sud-américains, qui aujourd'hui font que le Brésil reçoit des impacts très très forts de la baisse du prix des matières premières. Et dans le cas de Vale, c'est encore plus important. Enfin, les exportations de fer de Vale sont consacrées à 46% pour le marché chinois, qui aujourd'hui dégringole. Donc Vale est aujourd'hui confronté à une pression gigantesque sur sa production. Et ce qu'il faut dire, c'est pas un cas fortuit. C'est évidemment qu'il y a eu une stratégie politique et une stratégie économique de concentration sur le fer et de se mettre à la merci des marchés étrangers. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être critique sur le gouvernement. La critique du néo-extractivisme et de toutes les politiques brésiliennes, mais aussi sud-américaines, de soutien à l'extractivisme et de reprimarisation du commerce par des politiques qui, à l'origine, étaient de la gauche, doit être critiquée. Et ça, c'est une critique que tous ces mouvements ont fait sur ces 20 dernières années et qui continuent à être faites. En revanche, je ne pense pas que de demander la démission du gouvernement aujourd'hui permettra à court terme de changer et de résoudre cette crise économique et politique. La présidente Dilma est au pouvoir, elle doit finir son mandat. Et ensuite, là, il y a un combat important d'ici la fin de son mandat pour créer une alternative, et une alternative de gauche.
Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous écoutez les chroniques de Jacques Sapir. Nous poursuivons la discussion avec Anna Dorbeck, qui est économiste chez la banque BNP Paribas, et Frédéric Lasserre, directeur de CEM Finance. Anna et Frédéric, ça va toujours ?
Très bien.
Très bien.
Bon, Anna, les baisses enregistrées sur les marchés des matières premières coïncident depuis 2011 avec le ralentissement de la croissance chinoise. Je voudrais vous poser deux questions. Faut-il en déduire que tous les prix des matières premières sont intimement liés au niveau de consommation en Chine ? Et puis deuxièmement, est-ce que les marchés de matières premières ont perdu leur moteur de croissance structurel, à savoir la Chine ? Est-ce qu'un autre moteur de croissance structurel, on peut penser à l'Inde, on peut penser à d'autres pays, ne pourrait pas maintenant surgir ?
Effectivement, la Chine aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, a changé la donne sur le marché des matières premières. En première place, pour le marché des métaux industriels, ensuite pour l'énergie et moins pour l'alimentation. Par son développement industriel, par le développement de son industrie de transformation notamment. Et effectivement, ces parts de marché, la Chine les a gagnées sur les pays développés, donc qui ont perdu des parts de marché avec la désindustrialisation et la spécialisation dans les secteurs services. Aujourd'hui, la Chine, c'est 50% de la consommation et de la production de presque tous les métaux industriels. Il est évident que le moteur chinois qui aujourd'hui ralentit, le marché des matières premières ne peut que ralentir. Qui peut le remplacer ? Donc, on voit bien que les pays du G7 ne peuvent pas remplacer la Chine parce qu'ils ne font plus le poids.
Ils ne font plus le poids. Quand même, si on regarde le niveau de production des États-Unis et de l'Europe, ça représente quand même un poids non négligeable par rapport à la Chine.
Oui, c'est encore visible, mais il ne faut pas oublier que la croissance qu'on a aujourd'hui en Europe, elle est proche de zéro. La croissance des États-Unis est certes meilleure, mais quand même incomparable par rapport à ce qu'a pu montrer la Chine. Et donc, le rôle de moteur de croissance, c'est-à-dire d'une force qui pourrait tirer la croissance des prix, c'est-à-dire absorber tout l'excédent de production et engendrer une nouvelle demande, cette capacité-là, les pays développés ne l'ont plus. Ils peuvent maintenir, on peut s'attendre à un certain redémarrage cyclique, mais redémarrage structurel, le lancement d'un nouveau cycle des matières premières, comme on a vu dans les années 2000, ne pourra venir que des pays émergents. Évidemment, l'Inde, c'est le premier candidat, mais aujourd'hui, l'Inde ne fait pas le poids comparable à la Chine, même à la Chine du début du cycle. Donc l'Inde, à elle seule, ne pourra pas le faire, aussi parce que sa spécialisation est différente, la structure de son économie est différente et ses priorités sont différentes. Donc il va falloir attendre encore quelques temps que des nouveaux marchés, que des nouveaux peut-être groupements de pays ou régions se lancent dans une croissance accélérée et non pas juste dans une croissance normale, ce qu'on peut attendre des pays développés, des pays du G7.
Frédéric.
Oui, alors je partage assez largement l'analyse de de Anna, il faut bien souligner que s'agissant du poids de la Chine dans l'économie mondiale, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ça, la part du PIB chinois dans le PIB mondial. Donc ça, c'est une photo instantanée, hein, si on veut. Et puis la croissance, c'est-à-dire autrement dit, comment ce PIB croît. Il n'y a aucune autre région du monde avec un PIB aussi large qui a une croissance de 6%. Alors, elle est certes très inférieure à l'époque où la Chine avait une croissance de 10%. Enfin, 6% rapporté à un PIB tel que la Chine, aucune autre zone mondiale ne peut afficher une telle performance. Donc, il faut quand même le rappeler. Alors, là où je suis d'accord, c'est vrai que la Chine, on l'a bien compris, est arrivée quelque part au terme de sa phase d'urbanisation, industrialisation, et elle est déjà en train de glisser vers une économie de type plutôt occidental, avec la part des services qui croît énormément, pendant que les industries plus traditionnelles sont en phase de ralentissement. C'est pourquoi la Chine aujourd'hui devient exportatrice nette de matières premières, notamment de métaux industriels. Alors, elle n'a pas les minerais souvent, donc elle importe le minerai de fer, de cuivre, l'alumine, et maintenant elle se met à réexporter le métal raffiné parce qu'elle n'a plus la capacité à consommer de façon domestique cette production. Alors, sur la capacité de l'Inde à prendre le relais, évidemment, l'Inde a quelques similitudes frappantes avec la Chine, la taille du pays, un niveau de consommation de matières premières par habitant qui est aujourd'hui celle qu'avait la Chine il y a 15 ans, donc les espoirs sont grands. En réalité, comme l'a dit Anna, on est encore très loin d'avoir le potentiel qu'a eu la Chine pour deux raisons. D'une part, la spécialisation, c'est que l'Inde est partie directement sur une industrie d'exportation de services et non pas d'industrie ou de produits manufacturés. Et d'autre part, on est quand même, il faut le souligner, dans un régime qui est quand même démocratique, avec une grande indépendance des provinces en Inde, et on n'a pas cette capacité qu'a eu le gouvernement chinois, de façon plus dirigiste, de façon plus centralisée, à décréter un plan quinquennal et à le mettre en application sans qu'il y ait véritablement de discussion des acteurs locaux. En Inde, ça n'est pas du tout le cas. La bureaucratie chinoise, pour tous les acteurs occidentaux qui sont installés là-bas, savent très bien que c'est extrêmement compliqué d'investir, de développer un business en Inde. C'est très difficile. Et donc, cette difficulté se traduit aujourd'hui par la consommation de matières premières moindres, parce qu'on n'a pas une industrie. Le fameux « Made in India » décrété par Modi, aujourd'hui, ça reste un vœu pieux.
Alors, je voudrais maintenant revenir sur la question des prix du pétrole, parce qu'il y a un problème qui, moi, m'a toujours fasciné. Qu'est-ce que serait la question d'un prix réel du pétrole? C'est-à-dire un prix intégrant, évidemment, la hausse des prix dans les, sur les produits manufacturés, mais intégrant aussi les taux d'intérêt. Est-ce que l'on peut, sur longue période, arriver à calculer ce prix réel? Anna.
On peut tout calculer, mais le prix réel, c'est-à-dire le prix juste ou le prix...
Pas de prix juste. Je parle, par exemple, d'une évolution en disant, voilà, aujourd'hui, rapporté à la hausse des prix, rapporté à la hausse des taux d'intérêt, on est 10% au-dessus ou 10% en dessous du prix de 1973 ou du prix de 1976 ou du prix de 1980.
Ajuster juste sur l'indice des prix manufacturés, le pétrole est aujourd'hui quand même supérieur à le prix du pétrole actuel. Il s'en est approché sur la fin de l'année du niveau bas dans les années 90. Mais donc on a pratiquement perdu toute la hausse qui a pu y avoir dans les années 2000. Et encore une fois, mais c'est toujours supérieur à ce que c'était dans les années 60. Après, le problème du prix du pétrole, c'est que sa hausse tendancielle qu'on observe depuis une centaine d'années était effectivement due au cartel qui est l'OPEP. Et donc l'absence de rente monopolistique rend cette matière première presque identique, on peut dire, aux métaux, pour lesquels on observe plutôt une baisse tendancielle du très long terme.
Frédéric.
Alors, quand on regarde l'évolution des cours du pétrole en termes réels, mais simplement ajusté du déflateur du PIB mondial. Donc ça n'intègre pas complètement toutes les composantes que vous citiez, Jacques, mais uniquement l'inflation, d'accord? Y compris l'inflation quand même, des composantes de coûts liées au salaire horaire, etc. quand même. Donc effectivement, on est aujourd'hui sur la deuxième période la plus faible après 1998, donc l'effondrement des cours lié à la crise asiatique, donc un choc de demande à l'époque, et depuis 1973, les périodes qui précèdent ne sont pas pertinentes, puisque avant la fin des années 70, en réalité, le prix du pétrole n'était qu'un prix de transfert, puisqu'il n'y avait pas de marché libre du pétrole. Le prix était un prix comptable affiché par les majors pétrolières pour rémunérer la rente d'exploitation des pays hôtes. Donc c'est pas un prix au sens néoclassique du terme, d'accord ? C'est un prix de transfert comptable un peu artificiel. Donc la comparaison n'a pas de véritablement de sens. Donc effectivement, on est sur des niveaux relativement bas, pas les plus bas, mais la deuxième période la plus basse depuis que le pétrole est échangé sur un marché libre. Alors cela dit, quand vous citiez le coût du capital, il est certain que l'effondrement des taux d'intérêt partout dans le monde a largement contribué ou alimenté la baisse des cours, puisque le coût du capital pour les investisseurs dans la production de pétrole a beaucoup baissé, le coût de la main d'œuvre a également beaucoup baissé, le coût de la technologie a également beaucoup baissé. Donc l'ensemble des principaux postes de coûts liés à la production, y compris les productions qui sont techniquement très compliquées, l'offshore très profond est compliqué. Le pétrole de schiste n'est pas non plus une technologie simple. C'est pas la même technologie que le onshore en Arabie Saoudite. C'est beaucoup plus coûteux. Donc encore une fois, tous ces coûts ont baissé. Donc quelque part, le prix du pétrole a intégré la baisse de ses coûts à travers la baisse du prix sur le marché.
Anna, Frédéric, je vous remercie.
Merci.
Merci beaucoup.
Philippe Chalmin est économiste et professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Il est aussi l'un des plus grands spécialistes français des marchés de matières premières. Bonjour Philippe Chalmin.
Oui, je suis à vous.
Vous écriviez déjà en 2011, dans la revue Alternative économique, que le monde des matières premières est de plus en plus instable. Est-il encore plus instable aujourd'hui ?
Disons que nous avons connu, sur la période grossièrement 2006-2014, un véritable choc sur l'ensemble des marchés, dont l'ampleur est tout à fait comparable à ce qu'on avait connu dans les années 70, disons entre 72 et 80. Et aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 2 ans, nous connaissons un réajustement extrêmement brutal qui nous ramène en moyenne à des niveaux comparables à ceux que nous avions connus vers 2004-2005, c'est-à-dire avant le choc.
Qu'en est-il de ce que l'on appelle la financiarisation des marchés des matières premières ?
Non, je ne pense pas. Il est exact que, notamment durant la période du choc, on a vu arriver nombre d'investisseurs qui ont utilisé les matières premières comme une classe d'actifs. Et c'est vrai que ça a provoqué une augmentation des volumes traités sur les marchés dérivés. Mais sur les marchés de matières premières, à la fin du jour, ce sont toujours les fondamentaux qui ont raison. Et il faut rappeler que les fondamentaux, c'est le rapport offre-demande. Et quand l'offre excède la demande, ce qui est le cas à peu près général aujourd'hui, financiarisation ou pas, la baisse des prix est à l'ordre du jour. Et donc, tirer sur les marchés financiers en faisant d'eux les boucs émissaires de la crise me paraît être une analyse extrêmement limitée, voire dans un certain nombre de cas, totalement fausse. La preuve d'ailleurs, c'est que nous avons les mêmes mouvements sur les marchés de matières premières qui ne sont pas financiarisés, car pour des tas de raisons, il n'y a pas dans ces cas-là, qu'il s'agisse des viandes, des produits laitiers et d'un certain nombre de marchés de minerais, il n'y a pas de marché dérivé.
Philippe Chalmin, est-ce que l'on peut dire que les matières premières ont perdu aujourd'hui leur rôle de valeur refuge ?
Disons que, si vous voulez, il faut bien avoir en tête que les matières premières ne sont pas un facteur de développement économique. Elles sont plutôt une illusion. Et que cette illusion, elle s'est un peu déchirée ces temps derniers, et on en revient à une caractéristique dans l'histoire qui est la malédiction des matières premières. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que la crise brésilienne n'est absolument pas liée aux matières premières. La crise brésilienne a bien d'autres raisons, mais la crise et le passage à vide que traversent un certain nombre de pays producteurs de matières premières, notamment les pétroliers, bah, évidemment que c'est lié à cela. Et c'est vrai que, certes, les économies des pays avancés vont profiter de la baisse des prix, que cela met en péril, par contre, un certain nombre de leurs filières, notamment bah, celles qui étaient basées sur le recyclage, et je dirais même plus globalement les énergies renouvelables, et que l'effondrement en particulier des prix du pétrole est un très mauvais signe en ce qui concerne nos efforts malheureux de transition énergétique.
Philippe Chalmin, je vous remercie.
Ok, merci.
Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Nous mettons fin, à présent, à l'édition de cette semaine, intitulée « Va-t-on voir le bout de la crise des matières premières ?» Changement climatique, épuisement des ressources, ralentissement de la croissance chinoise et spéculation à outrance, tous ces facteurs contribuent donc à la situation que nous vivons aujourd'hui sur les marchés des matières premières et qui est tout sauf rassurante. Même si je crois pour ma part que les prix, tout au moins en ce qui concerne le pétrole et le gaz, vont finir par s'apprécier et se stabiliser. Comme vous avez pu le comprendre, derrière un sujet en apparence technique, il y a des ressources pillées, des emplois perdus, des dettes qui s'accumulent, le tout dans une ambiance survoltée de trading à haute fréquence et de multiplication des produits dérivés. C'était Jacques Sapir au micro, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un sujet qui, lui non plus, ne manque pas d'adrénaline. J'ai nommé le Bitcoin. Une émission que nous titrerons « Bitcoin et nouvelle monnaie numérique ». Je remercie Mourad Azri au montage et à l'habillage, Marc-Laurent Turpin à la réalisation et Clément Détry à la rédaction. Et je vous dis à très bientôt sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.